Donc, puisqu'on s'approche du matin de Torah, on ne va pas faire le chapitre 35. Je vais aller directement dans le chapitre 36. On reviendra, bien sûr, au chapitre 35, je ne l'ai pas annulé, ne vous inquiétez pas. On reviendra. Mais je vais développer une partie du chapitre 36 qu'on va développer plus longuement, puisque ça parle du matin de Torah. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'arrête pas tellement de parler le don de la Torah, le don de la Torah, le don de la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit les Midrashim, on comprend qu'au don de la Torah, le monde a changé. Et ça, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi le monde a changé? C'est-à-dire quoi le monde a changé? Est-ce que nous on était différents? Est-ce qu'on n'était pas différents? Qu'est-ce qui a changé? Donc, ce qu'on va essayer de faire dans le cours d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, la vérité, c'est que j'avais pas prévu de parler de ça, j'avais prévu de faire continuer le chapitre 35, mais comme j'ai vu qu'on est moins nombreux et qu'en plus, on s'approche Shavuot. Donc, on va commencer le chapitre 36. Alors, c'est pas le chapitre 36 au début, au milieu.
Tu parles de Shavuot?
Oui, ça parle de Matan Torah. C'est pour ça.
C'est quoi la différence entre Shavuot et Simchat Torah?
Très bonne question.
Très bonne question. On va prendre la page 131. C'est un très bon sujet, c'est une très bonne question. Shavuot, Dieu nous donne la Torah. Simchat Torah, on se réjouit d'avoir étudié la Torah.
Ah, d'avoir étudié.
Ah oui, évidemment.
Ah ouais, il y a une différence alors.
Donc Shavuot, on se réjouit que Dieu nous a choisis sans même comprendre qui on était et savoir qui on était, nous a donné la Torah.
Gratuitement.
Oui, mais gratuitement, parce que de la même façon qu'il nous a forcé à prendre la Torah, il aurait pu forcer les Arabes à prendre la Torah. Ouais. Il faut dire la vérité. Il nous a retourné la montagne sur la tête, il a dit vous acceptez ou je vous tue. Donc il nous a conditionnés pour accepter. Et les autres, il est parti les voir, il leur a dit chacun il est parti prendre son point faible. Et quand ils lui ont dit mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, il leur a sorti le point faible. Et évidemment oui, qu'il va répondre non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est conditionné. C'est clair, c'est conditionné.
Oui, c'est.
Non, mais disons que c'est un jeu de société.
C'est comme il y a un appel d'offres, d'accord. Tu vas voir chacun des qu'on appelle ça chacune des sociétés, mais tu t'arranges pour que le point que tu vas leur demander, c'est le point qu'ils ne peuvent pas te donner. C'est évident qu'ils vont te dire non.
Et en plus, ils savent très bien qu'ils n'auraient pas pu arriver au but.
Non, ça c'est une autre question. Alors ça, en vérité, ce qu'on dit, on dit que Atav v'Chartanu Mikol Amim. On dit que Atav v'Chartanu Mikol Amim, toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis parmi toutes les nations. Ahav ta'otanu v'ratzit abanu. Tu nous as aimés, et c'est pour ça que tu as voulu en nous. C'est-à-dire quoi, voulu en nous? On explique en Chassidut que le fait que Kadosh Baruch Hu a choisi l'homme Israël, c'est pas lié à la compréhension, c'est pas lié à la logique, c'est pas parce qu'on est les plus beaux, pas parce qu'on est les plus intelligents, pas parce qu'on est les plus gentils, pas pour ça. Parce que Dieu, il a voulu de nous. Une volonté ne s'explique pas. On a expliqué ça souvent dans le cours de Tania. Une vraie volonté n'est pas liée à la logique.
Le désir, alors.
Le désir. Et le Tania, le Morazaki, il va plus loin que ça, mais ça, bon, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Il dit que même le corps d'un juif, il a été choisi par un Kadosh Baruch Hu. Le corps physique. On peut dire, attends, le corps, attends, doucement.
C'est les mêmes, hein?
L'âme d'un... Exactement, c'est les mêmes. Parce que mon corps, il est différent du corps d'un goy qui est dehors. Même mon corps, un Kadosh Baruch Hu, il a choisi.
Chez Freud, c'est pareil, le désir, c'est hors norme complètement.
C'est complètement, ça rentre pas dans la logique. Et qu'est-ce qu'on voit? On dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Or, le vrai choix dans la Torah, c'est un choix qui n'est pas conditionné, parce que sinon, c'est pas un choix de la personne, sinon, c'est un choix de son intellect. Je vous donne un exemple. Ça, c'est important de comprendre ça, sinon, on ne comprendra pas la suite. Imaginez que j'ai devant moi, qu'est-ce que j'ai là? Des pistaches, des chips.
On peut faire deux choix, non?
Qu'est-ce que je choisis? Vas-y, Abraham, qu'est-ce que tu choisis?
Moi, les pistaches, mais...
D'accord. Donc, tu as choisi les pistaches?
Non.
Pourquoi c'est pas un choix?
Je veux les pistaches.
Parce que tu veux les pistaches. Non, mais pourquoi non? Pourquoi tu veux les pistaches?
C'est pas pareil.
Parce que je préfère.
Parce que tu préfères. Donc, c'est pas une volonté, c'est une préférence. C'est une préférence qui est basée sur quoi?
Le goût.
Sur tes intérêts. Mais c'est pas une volonté. C'est une préférence. Ça veut dire que si maintenant, je dis, bon, tu voulais les pistaches, je vais te trouver maintenant, dis-moi quelque chose de meilleur que le pistache. Hein? Voilà, tiens. Au début, je te propose que ça et ça, qu'est-ce que tu me dis?
Les pistaches.
Oui, je veux les pistaches. Après, je te montre ça et ça, qu'est-ce que tu me dis?
Bon,
je veux ça. Donc, ça veut dire qu'en vérité, tu voulais pas les pistaches. Tu préférais les pistaches. Ça s'appelle une préférence. Un vrai choix dans la Torah, et pas seulement que dans la Torah, en philosophie, un vrai choix, c'est quelque chose que même si tu me présentes quelque chose qui est meilleur, je voudrais toujours la même chose. On a donné souvent l'exemple d'une femme enceinte qui veut quelque chose, etc. Que même si tu veux quelque chose de meilleur, laisse tomber, ça n'a rien à faire. Ben, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas choisis parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est les plus beaux, parce qu'on est les plus intelligents. Non.
Parce qu'il nous désirait.
Parce qu'il nous désirait.
Ah, voilà,
ça. Et ça, on le voit dans le Atav v'Chartanu. Ce que je vous dis, ce n'est pas une invention de la Chassidoute. Hein. Je vais traduire l'Ata Bechartanu. Ata Bechartanu Mikol Amim. Tu nous as choisi parmi toutes les nations. Choisi. Et on explique c'est quand un choix. Ahavta Otanu, tu nous as aimé. Pourquoi tu nous as aimé? Veratita Banu. Tu as voulu en nous. Et qu'est-ce que tu as fait? Veromamtanu Mikol Aleshonot. Tu nous as élevés de toutes les langues. Ça veut dire que notre langue n'a rien de plus que les autres. Mais tu as décidé que celle-là est la meilleure. De Kidashtanu Mitzvotera. Tu as dit, je vais vous sanctifier par les mitzvot. Mais de la même façon qu'il a fait avec nous, il aurait pu le faire avec les Chinois. Ce qu'il a fait avec nous, il aurait pu le faire avec les Chinois.
Mais il n'aimait pas les Chinois, il aimait les Juifs.
Non, ah. Probablement pour moins cher.
Oui, en plus pour moins cher. Et pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il l'a pas fait? Vous pensez que les Chinois auraient donné un moins bon résultat?
Bien sûr.
Pas du tout. Ils auraient donné certainement un résultat aussi bon. C'est Dieu qui les sanctifie par les mitzvot. Imaginez que Dieu va voir le peuple chinois et il s'arrange pour les obliger à prendre la Torah.
Et pourquoi tu le regardes de cet homme? Pourquoi tu ne vois pas dans l'autre 30?
Ouais, je vois d'un angle très simple. C'est qu'on dit le Midrash.
Non.
Je vois d'un angle très simple. C'est que le Midrash te raconte que Dieu a proposé la Torah à tout le monde. Mais quand tu lis le Midrash, tu vois clairement que l'affaire était truquée.
C'est ce que je te dis, ça, parce que tu le regardes.
Nassim Nishma, il était avant le Archidikit.
Oui, c'est vrai.
Donc il y a quand même eu un Nassim Nishma des Bnisraël.
Oui, mais il les a conditionnés. Il venait leur faire 10 miracles. Il venait les faire sortir, etc.
Oui, il y a quand même eu un.
Prends un autre peuple, on leur envoie un libérateur qui va leur faire des miracles et des merveilles, qui leur fait passer la mer, etc. Ouais. Avec toutes les galères qu'ils lui font.
C'est toujours comme ça.
Ouais. Bah oui. Et qu'après, il leur dit, bon, bah écoutez, j'ai un super contrat à vous signer. Bien sûr qu'ils disent, on est là, bah, on te suit. Le scoop aurait été, si en Égypte, marchant en pleine galère, qu'il dit, venez, on va signer un truc. Où on va signer? Où Guy va signer? Alors, je remets pas en cause l'émouna du peuple juif. On a une émouna, ce qui est clair, il n'y a pas de question dessus. On a une émouna qui est depuis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas oublier le fait que Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes les descendants d'Abraham.
Non.
Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on a une émouna. Il nous a choisis parce qu'il a voulu. C'est tout. Et une volonté, on ne peut pas enlever une volonté.
Mais la émouna qu'il nous a donnée.
Surtout chez Dieu.
Surtout chez Dieu.
Il nous l'a donnée à la base, l'émouna, non?
Oui, mais voilà, exactement, il nous a conditionnés dès le départ. Alors pourquoi j'explique ça? Pour expliquer que Matan Torah, le don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous a choisis. C'est là à quel moment s'est passé le choix? À quel moment se passe la naissance du Ham Israël? Une grande marque dans les poskim, la majorité disent qu'à quel moment se passe la naissance du Ham Israël? Au don de la Torah. Jusqu'au don de la Torah, les Bnei Israël ne croyaient pas à 100%. On a appris récemment dans le cours du mercredi matin, on a appris le Rambam. Et Rambam, il pose la question, il dit, comment les Bnei Israël, ils ont cru que Moïse était un vrai prophète? Qui leur dit que c'est pas un faux prophète? Comment faire lui qu'il y a un prophète qui débarque? Alors pour le prophète suivant, c'est facile. Parce que s'il y a un prophète connu qui témoigne sur un autre,
oui,
on accepte.
C'est du déjà vu, comme tu disais.
Voilà. Ça, c'est bon. Mais le premier, comment il a fait? Premier prophète, il est arrivé, il dit Dieu, il m'a parlé. Comment on l'a cru?
Bah, ma chère, hein.
Alors exactement. Comment on l'a cru?
On l'a pas cru d'abord.
Comment on l'a cru? Alors il dit comme ça, Rambam. Il dit, ne croyez pas qu'on l'a cru parce qu'il a fait des miracles. Parce qu'il a tapé avec le bâton, parce qu'il a fait, etc. Ça, ça peut être par la sorcellerie, ça. C'est pas une preuve, ça. C'est quoi la preuve? La preuve, ça a été au don de la Torah. Qu'au don de la Torah, des millions de personnes ont entendu, pas de Moshe Rabbeinu, ils ont entendu de Dieu. Comment Dieu leur parlait à eux, et ils l'ont entendu. Et ils ont entendu que Dieu parlait aussi à Moshe Rabbeinu. Et là, ils ont compris que Moshe Rabbeinu pouvait lui faire confiance. Mais c'est très intéressant ce que dit Rambam, parce que ça, c'est pas clair dans la Gemara. Rambam, Maïmonide, dit très clairement que jusqu'au don de la Torah, les Bnei Israël, ils étaient indécis par rapport à Moïse. C'est un très grand chidouche.
Donc il a crédibilisé.
Un très grand chidouche. Ça veut dire que c'est pas qu'ils le croyaient pas, mais qu'ils n'avaient pas de preuve qu'ils pouvaient le croire. Ils dit bon, on le suit parce que ça correspond à un programme qu'on nous a annoncé.
Ce qu'il dit, ça réalise aussi.
Voilà.
C'est la première
fois. Ça, un sorcier peut te le faire aussi.
Oui. Oui. Mais bon.
Comment, ouais. Il peut m'ouvrir la mer, un sorcier.
Peut tout te faire, un sorcier.
Ouais, il peut faire.
Bien sûr. Tout. Évidemment.
Avec ça.
Tout parce qu'avec Dieu, il a créé les forces du bien, il a créé les forces du mal. De la même façon que ceux qui savent manipuler les forces du bien peuvent faire des choses extraordinaires, ceux qui savent manipuler les forces du mal peuvent aussi faire des choses extraordinaires.
Le miracle n'est pas.
Oui.
N'est pas forcément assez.
Apprendre à maîtriser les règles de la nature, c'est comme l'atome. On arrive à maîtriser l'atome. Tu peux en faire quelque chose. Tu peux faire tourner une centrale nucléaire pour faire, grâce à ça, l'électricité, etc. Tu peux aussi faire une bombe atomique. Quand tu apprends à maîtriser l'énergie, tu fais ce que tu veux. De la même façon spirituellement. Les forces du mal, c'est ceux qui arrivent malheureusement à maîtriser l'énergie et qui en font une mauvaise utilisation. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Très bien. Akadosh Baruch Hu nous a choisi et il nous a donné la Torah. Très bien. Maintenant, on va rentrer dans les mots pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah? Le problème qu'il y a, c'est c'est que l'obscurité dans laquelle on vit, on se mentit. Donc, oui, pardon, j'étais en train de dire que Moshe Rabbeinu, jusqu'au don de la Torah, les Juifs, ils n'ont pas cru. Mais après, ils ont cru. Très bien. Donc, on comprend ce qui se passe au don de la Torah. C'est là qu'on voit que Dieu nous a choisis. C'est là qu'on devient un peuple et c'est là qu'on comprend que Dieu nous a choisis. Très bien, il n'y a pas de question dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai expliqué en Chassidout que l'événement de Matan Torah ne se reproduira pas. Très intéressant, ça. Mm-hmm. On s'arrête sur un prophète qui te dit comme ça, qui te dit que la puissance du don de la Torah ne se reproduira jamais, même à Mashiach. Ah, pourtant, il est écrit, et les chrétiens en font un bon usage, enfin un mauvais usage, il est écrit Torah Chadasha, mais iti tetzé, une nouvelle Torah sortira de moi. Il est écrit dans Isaïe, clairement. Alors comment ils ont compris ça, eux ? Ben voilà, Nouveau Testament. Mais ils n'ont pas fait le commentaire de Rashi, évidemment. Qu'est-ce que dit Rashi ? C'est quoi Torah Chadasha ? C'est quoi une nouvelle Torah ? Une nouvelle Torah, ça veut dire que tellement on aura de nouveaux chidushim, mais une nouvelle vision de la Torah, que c'est comme si c'était une nouvelle Torah. Comme si par exemple, je te donne quelque chose, tu lis, tu comprends pas trop, et après on t'ouvre les yeux. Je dis, mais c'est un nouveau livre. C'est pas un nouveau livre.
Et pourtant, c'est le même livre.
Pourtant, c'est le même livre. Bonsoir. Alors, ce que je vais expliquer par là, c'est que l'expérience du don de la Torah est une expérience unique qui ne se reproduira jamais. Sauf que, et c'est là le thème du cours d'aujourd'hui, malheureusement, on n'était pas prêt à ce développement et à ce dévoilement. On n'était pas prêt à ça. Et c'est pour ça que ça a mal terminé. Mais ça ne change pas que l'événement du don de la Torah est un événement puissant qui ne se reproduira jamais. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire du monde, on aura un événement aussi fort que ça. Jamais.
C'est beaucoup plus fort que Pessah.
Plus fort que tout. Très très fort. Pourquoi ?
On dit souvent que Pessah, c'est là que s'est constitué le peuple juif.
Hein. Non, Pessah, c'est... Non, Pessah, Ézéchiel, quand il décrit Pessah, il dit que c'est le début de la naissance du peuple juif. Il compare ça à la gestation dans le ventre de la mer, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, quand on était en Égypte, on était comme dans le ventre de la mer.
Ouais.
Avant d'arriver à l'accouchement, ça prend du temps. Ce que j'ai dit entre le décisionnaire et la question, quand démarre la naissance du peuple juif ? Est-ce que ça démarre à Pessah ? Ou est-ce que ça démarre à Shavuot ?
Pessah, c'est fait. Préparation.
Et c'est pas clair. C'est
une vraie question.
C'est une vraie question. Ça veut dire, quel est l'aspect primaire chez Israël ? Est-ce que c'est le fait qu'on a été choisi en tant que peuple ? Ou est-ce que c'est le fait qu'on a reçu la Torah ? C'est une question qui a beaucoup d'implications.
C'est difficile. Hein.
Aujourd'hui, la majorité disent, et moi personnellement je pense comme ça, que le plus important c'est le don de la Torah.
Ah oui.
C'est là que. Parce que c'est là qu'on est devenu, c'est là qu'on est devenu un peuple. C'est ça. Notre peuple, il dit, Rabbi Saadia Gaon, il dit que notre nation, chaque nation a une définition. Par exemple, quelle est la définition d'un Français ? Il est attaché à la France. Quelle est la définition d'un Américain ? Il est attaché aux États-Unis, même s'il habite en France, mais il est attaché aux États-Unis. D'accord ? On peut être Français-Américain ou Américain-Français. Quelle est la définition d'un Juif ? Alors, certains répondront, il est attaché à une langue, il est attaché à la langue hébraïque, il est attaché à la terre d'Israël. C'est faux. Rabbi Saadia Gaon, il dit clairement, dans son livre Emunot Vedeot, il dit qu'un juif n'est pas juif parce qu'il est lié à une terre. Et il n'est pas juif parce qu'il parle une certaine langue. Il est juif par la Torah, parce qu'il est attaché à une Torah. C'est tout. Emunatenu, enena emuna ki'im betorata. Umatenu, pardon. Enena uma ki'im betorata. Notre nation est une nation seulement par sa Torah. C'est la seule définition de notre peuple. Donc, on va s'arrêter un peu sur le cours d'aujourd'hui pour expliquer qu'est-ce qui se passe au don de la Torah. Donc, résumons ce que j'en ai expliqué. Le don de la Torah, c'est un événement exceptionnel dans lequel il se passe plusieurs choses. Premièrement, c'est alors que Dieu nous choisit. Jusqu'à présent, il nous a fait comprendre, mais il n'a pas encore choisi. Au don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous choisit. Pourquoi il nous choisit ? Parce qu'il le veut. Pourquoi il le veut ? Abraham, t'es avec nous ?
Oui.
Pourquoi il le veut ?
Parce qu'il le désire.
Parce qu'il le veut, c'est tout, point barre. On peut faire une question sur une volonté. Il le veut. Donc, à Kadosh Baruch Hu, au don de la Torah, il nous choisit. C'est là que, enfin, il nous parle directement, sans passer par un intermédiaire. Ce qui est d'ailleurs le point fort de notre religion. Dans toutes les autres religions, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur un prophète à qui Dieu a parlé. Ou enfin, à qui prétend que Dieu a parlé. Alors que chez nous, dire toujours Rabbi Saadia Gaon. Il dit nous, Dieu, il a parlé à chacun. D'où je sais que la Torah est vraie, parce que mon père m'a raconté, que son père lui a raconté, et on a des traces historiques.
Il y a quand même Moshe, qui a une place tout à fait à part. Moshe,
il nous a enseigné que 611 lois. Les deux premières lois et les lois principales. La loi, je suis l'éternel ton Dieu, qui est la base de toutes les mesures positives, et la loi, tu n'auras point d'autre Dieu, qui est la base de tous les commandements négatifs, les deux premiers commandements, on les a entendus nous-mêmes de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous prenez la valeur numérique de Torah, c'est combien ? 611. Parce que Torah, Tzivah, Lanou, Moshe. Moïse nous a ordonné 611. Il en manque deux pour 613. Les deux, c'est on les a entendus de Dieu. Et ça, c'est ce qui est...
Par affirmation, est-ce qu'on parlait du Machiach et tout, Donald Trump, Gematria, Machiach Ben David.
Ah oui?
On peut en trouver beaucoup comme ça.
T'as pas, t'as pas essayé Clinton pour voir?
C'est extraordinaire.
J'ai vu ça aujourd'hui. J'ai pas,
t'as pas essayé Clinton pour voir
ça? Bah, toi, t'aurais voté pour qui?
Je sais pas.
C'est lui, c'est Machiach, j'ai peur.
C'est impressionnant. J'ai entendu ce qu'elle a dit.
Tant pis. Il a pris un bon colistier,
Qu'est-ce qu'il a pris?
Un KB.
C'est un
pro-israélien.
Pro-israélien.
Et comment s'appelle Clinton? Elle est comment? Pro-israël?
Non, elle est pas bien.
Non, elle est pas bien?
Vous savez, ils changent tous leur.
Je m'aime bien, je m'en vais pas faire à ma chambre.
Bon, alors.
Sur la ligne de son mari, quoi.
Donc reprenons. Oui, exactement. Ça veut dire que j'ai une face devant, une face derrière, d'habitude. Donc reprenons. Qu'est-ce qui se passe au don de la Torah? Au don de la Torah, événement exceptionnel, Akadosh Baruch Hu nous choisit. Il nous parle de façon directe, sans passer par intermédiaire. C'est ça la base de notre mouvement. Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah? Pourquoi il nous a donné cette Torah? Alors, beaucoup de gens pensent, par erreur, ils disent pourquoi il nous a donné la Torah? Ben, c'est le mode d'emploi. Ça veut dire que faut bien savoir ce qu'on doit faire. Je vous ai donné un mode d'emploi. J'achète une voiture, un mode d'emploi. J'achète un micro, on est un mode d'emploi. J'achète un fond, il y a un mode d'emploi. J'achète quelque chose, tout, il y a un mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, c'est la Torah. Pas du tout.
C'est un cadeau.
Oui, pourquoi il a donné ce cadeau?
Pour nous faire plaisir.
Oui, mais à quoi il sert ce cadeau?
Pour le répondre dans le monde.
Ah bah,
alors c'est très simple.
C'est pas pareil. À quoi il sert?
Alors c'est très, regardez, c'est très simple. Très fort ce qu'il dit ici. Il dit qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il nous a créé dans ce monde, sur Terre, ici-bas. Le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a créé, on arrive au but, c'est quoi? C'est de transformer l'obscurité de ce monde en lumière. Repousser l'obscurité en faire la lumière. Mais comment c'est je vais réussir? Exactement. Comment je vais réussir? L'obscurité a été créée par Dieu lui-même. Comment moi je vais venir repousser l'obscurité en faire la lumière? Eh bien la réponse, c'est que Dieu nous a donné un outil. Et sans cet outil, c'est peine perdue. Cet outil s'appelle la Torah. Voilà pourquoi le don de la Torah est un événement très important, parce que c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous choisit. Il dit, c'est vous qui allez sauver le monde. C'est littéralement le cas de le dire. C'est vous qui allez changer le monde. Et l'outil que je vous donne s'appelle la Torah. Et là, on va développer dans les mots. On va prendre la page 131.
Nous, on a le, juste comme ça. Est-ce que nous, on a le moyen de savoir pourquoi? Parce que ça, c'est une volonté à côté, quoi. Pas la volonté principale. Pourquoi il crée le monde?
Il crée le monde.
J'ai compris ce que tu as dit. C'est, il a créé un monde d'obscurité. Donc, et nous, par la Torah, ou avec, grâce à la Torah, on transforme l'obscurité en kadosh.
On aura plusieurs cours sur ça au début du chapitre 36. Mais je te réponds. Bien sûr qu'on a la réponse.
Est-ce qu'on a la réponse?
Oui, la réponse, c'est même pas le Tania, c'est le Midrash. Il dit que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, pour faire court, mais il faudra au moins 2-3 cours pour développer ça, c'est que Dieu, il a voulu être un roi, d'abord c'est écrit, mais Dieu a voulu faire une demeure pour lui, ici-bas. Écoute bien, j'ai compris, mais ça veut dire qu'il a voulu créer un endroit dans lequel il n'est pas le bienvenu, et que dans cet endroit, quand même, on l'accueille et on fait un effort pour qu'il soit le bienvenu. Pourquoi il a eu envie? C'est une volonté.
Donc on ne peut pas savoir.
Non, non, ça veut dire on sait ce qu'il veut,
oui, d'accord.
Mais on ne sait pas pourquoi il le veut.
Okay.
Donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que d'ailleurs on dit comme ça, la Gemara a dit, il est écrit, Eretz, on va pas faire beaucoup dans le texte, hein, parce qu'on peut dire beaucoup sur le nom de la Torah. Il est écrit comme ça. Eretz yara veshakata. Dans Tehilim, il est écrit qu'au don de la Torah, la terre a eu peur, et après, veshakata, elle s'est calmée. La Gemara a dit, si elle a eu peur, pourquoi elle s'est calmée? Et si elle s'est calmée, pourquoi elle a eu peur? C'est la Gemara dans Shabbat. Et qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara a dit comme ça, c'est très simple. Elle dit, en vérité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a fait une condition avec l'univers. Quelle condition il a fait? Il a dit, voilà ce qui va se passer. Je vous crée à condition. Si, dans, on va dire 2448 ans, les juifs, au moment où je leur donnais de recevoir la Torah, ils acceptent. Dans ce cas-là, on prolonge le contrat. Sinon, s'ils ne prolongent pas le contrat, la terre, je la réduis à néant. Et ça, la terre savait ça. Donc tout le monde attendait le jour J dans lequel Dieu va proposer la Torah à Israël. Dieu propose la Torah à Israël.
Il n'y aurait pas le choix d'après ça.
D'accord? Oui. Il laisse pas le choix, mais bon, il faut quand même, il doit quand même nous extirper un huit. Qu'est-ce que dit la Gemara? Eretz yara veshakata. La terre a eu peur, parce que imagine, elle dit non, on va être exterminés nous aussi. Et pourquoi la Terre s'est calmée? La Terre s'est calmée parce qu'Israël a dit oui. Ça veut dire que toute l'humanité entière tenait à ce moment-là. Ce moment-là est un tournant dans l'histoire, c'est le moment dans lequel le Ham Israël a décidé de devenir les acteurs principaux qui vont changer le monde. Et c'est une réalité qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Nous sommes les acteurs principaux qui ont la force de changer le monde. Après, est-ce qu'on utilise ça pour la Torah? Est-ce qu'on utilise ça pour le cinéma? Est-ce qu'on utilise ça pour j'en sais rien, pour des bêtises? Ça, c'est notre problème. Mais Dieu nous a donné un outil qui s'appelle la Torah. Et avec cet outil, on peut changer le monde. Ça veut dire qu'il y a un monde avant le don de la Torah, il y a un monde après le don de la Torah. C'est pas le même monde. À tel point que la Gemara a dit que les 2 millénaires avant le don de la Torah, enfin un petit peu avant qu'on rentre en Égypte, on les appelle 2 millénaires de Tohu. C'est 2 millénaires de pagaille. Lorsque la Torah est arrivée, c'est là que la construction arrive. Alors on va lire maintenant un peu dans les mots. Vélazé, c'est pour cela. 9 Adar 2, page 131. Vélazé, c'est pour cela. Nathan Lak, Nathan.
J'ai vu avec mon père ce matin qu'on traduit mal Tohu. Tohu, c'est pas pagaille. Tohu, c'est l'obscurité.
C'est l'abîme, ouais, ouais.
C'est pas l'obscurité.
Obscurité.
Quatre recherches, on ne savait pas que là, voilà, on comprend pas trop ce que c'est, mais je pense
que... C'est quoi, Bohu?
Bohu, ce sont des pierres de lesquelles sortent l'eau. Tohu, Bohu. Et c'est une création divine.
Oui.
Il a été créé le premier jour. Le Tohu a été créé, le Bohu a été créé le premier jour.
Et la terre était Tohu, Bohu.
Oui. Ah, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vide. C'est sûr qu'elle n'était pas vide. Parce que le vide, c'est déjà, même l'espace est déjà une création.
Tout est
une création.
Il y a une date de péremption ou non?
6000.
Ah. Non, date de péremption de ce monde ou non?
Oui, oui.
Date de péremption de l'exil, pas de ce monde. De ce monde en mode exil.
Ah.
Ah bah oui.
Non, mais de ce monde.
21 décembre 2011.
De ce monde? Tout court?
De cette création.
Non.
La création de ce monde.
Alors reprenons dans les mots. Vélazé, c'est pour cela. Donc comment on fait? Comment Akadosh Baruch Hu fait pour nous donner la force de tenir ici-bas sur Terre et de réussir à transformer l'obscurité? C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Tu me demandes d'affronter l'obscurité et de le transformer. Qu'est-ce que me donne Akadosh Baruch Hu comme outil dans ce fameux tournant de l'histoire en 2448? Vélazé, c'est pour cela, Natan Akadosh Baruch Hu l'Israël et ta Torah. Dieu a donné au Ham Israël la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est qu'à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre cet outil vers nous. Là, je voudrais m'arrêter un peu sur cette question. Question très simple. C'est quoi le grand scoop qu'on dit qu'au don de la Torah, Dieu nous a donné la Torah? Mais avant, on sait très bien ce qu'il raconte dans la Gemara et dans les Midrashim, que les patriarches ont toujours accompli la Torah.
Toute la Torah.
Toute la Torah, ils ont accompli. Qu'est-ce qu'il faisait vraiment venu lorsqu'il a accueilli les anges? Il leur a fait des matzot. Parce que c'était Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on est là en train de dire maintenant que Dieu nous a donné la Torah? Mais il nous a officialisé un cadeau qu'il nous a déjà donné, parce que les patriarches le connaissaient. On dit que depuis l'époque de Adam Harishon, la Torah, même de Noir, la Torah n'a jamais quitté nos patriarches. Toujours il y avait la Torah chez eux. Alors pourquoi on parle de don de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a donné la Torah? La réponse est très simple. C'est que jusqu'au don de la Torah, la Torah n'était pas descendue en bas. C'est-à-dire que la Torah était restée une entité spirituelle, qui est restée en haut. Et nous, on essayait de traduire cette entité par des actes matériels. On sait par exemple, on connaît l'histoire, que Yaakov Avinu, lorsqu'il voulait mettre les tefillin, qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait des bâtons. Pourquoi? Parce qu'il essayait de matérialiser un concept spirituel, mais le concept restait spirituel. Qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash dit que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah, Akadosh Baruch Hu a dit, dorénavant, ceux qui sont en haut pourront descendre en bas, et ceux qui sont en bas pourront monter en haut. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ce qui est en bas, c'est la matière, c'est la matérialité. Ce qui est en haut, c'est le spirituel, la spiritualité. Jusqu'au don de la Torah, le spirituel était spirituel et la matière était matière. On ne pouvait pas mélanger les deux. On ne pouvait pas matérialiser le spirituel ou spiritualiser la matière, c'est pas possible. On pouvait faire comme si je pouvais prendre un objet et de dire cet objet représente ce qui se passe en haut. Il représente. Mais le vrai, il est en haut. Il n'est pas en bas. C'est quoi le chidouche du don de la Torah? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit dorénavant, on pourra faire descendre l'un chez l'autre et l'autre chez l'un. Et il y a même un très bel exemple. Il dit, il y avait une fois, le roi de Perse et le roi de Rome. C'est dans l'histoire du monde, ça. Il y avait une fois le roi de Perse et le roi de Rome qui étaient en guerre. Une guerre. Une guerre sanglante d'ailleurs, bon, comme ceux qui connaissent l'histoire du monde, des guerres très compliquées. C'était des empires. C'est même pas la Perse et la Rome, c'était des empires. Et donc, évidemment, on n'a pas un Perse, enfin celui qui était dans l'Empire Perse, n'a pas le droit d'aller dans l'Empire Romain, et vice-versa. Et une fois, le roi, les rois, ont dit que dorénavant, le décret est aboli. Que celui qui est en haut pourra descendre en bas, et celui qui est en bas pourra descendre en haut. Ça, c'est un exemple que le Midrash amène, un exemple contemporain de leur époque, pour illustrer à quel point c'était tellement inconcevable de marier le spirituel et le matériel. C'était impossible. Qu'est-ce que dit HaKadosh Baruch Hu ? HaKadosh Baruch Hu dit dorénavant, depuis le nom de la Torah, la matière, ceux qui sont en haut, pardon, le spirituel pourrait être matérialisé par les téphilines en cuir que je vous mets par exemple, et d'un autre côté, la matière pourrait être spiritualisée. Et qui a fait le premier pas ? Parce que ceux qui sont en haut peuvent descendre en bas. Et ceux qui sont en bas peuvent monter en haut. Mais qui fait le premier pas ? Ben Dieu dit, c'est moi qui commence en premier. Pourquoi ? Vous lirez dans les 10 commandements. Il est écrit, va yered Hashem al Arsinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et quelques versets plus tard, vous voyez, il est écrit, et à Moïse, il a dit, monte vers Dieu. Donc qui a fait le premier pas ? C'est Dieu. C'est Dieu qui est, c'est le supérieur qui est descendu vers l'inférieur. Et après, l'inférieur est remonté vers le supérieur. Donc là, on comprend un peu mieux la dynamique de Matan Torah. Alors, qu'est-ce que fait HaKadosh Baruch Hu ? HaKadosh Baruch Hu, il veut nous donner un outil pour transformer l'obscurité de ce monde. On était incapable de le faire avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, même si on avait mis des téphilines, et même si on savait le concept qu'on pouvait mettre des téphilines en cuir, ça n'aurait rien changé, parce que quand je mets les téphilines en cuir ici-bas, je ne fais que représenter une entité spirituelle. Mais en bas, rien n'a changé. En bas, les bouts de bois que Yaakov utilisait, qu'est-ce qu'il faisait avec après avoir utilisé ? Il les jetait. Parce qu'il n'y a pas de Kdusha. Il n'a pas repoussé l'obscurité, il n'a pas transformé l'obscurité. Le chidouche, l'innovation, la nouveauté du don de la Torah, c'est que dorénavant, un objet matériel peut être kadosh, peut être spirituel. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais c'est du fétichisme. C'est la halakha. C'est la halakha. Tu prends une paire de téphilines, même quand tu ne l'utilises pas, elle est kadosh. Comment elle peut être kadosh ? Comment une peau de cuir peut être kadosh ? Vous comprenez ça, M. Barreau ? Comment peut être kadosh une peau de cuir ? C'est incompréhensible. Ça, ça fait partie de la nouveauté du don de la Torah, qui dit que, dorénavant, la matière pourrait être spiritualisée et le spirituel pourrait être matérialisé.
Pas n'importe quelle matière.
Pas n'importe quelle matière. Voilà, bien sûr qu'il y a des règles.
Prends une peau de cheval.
Non, évidemment, évidemment. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu nous a quand même donné un mode d'emploi, que si on suit son mode d'emploi, oui, voilà, il y a quand même un mode d'emploi. Si on suit le mode d'emploi, on peut réussir à transformer, je dis bien transformer réellement, de la matière, qui est symbole d'obscurité, en lumière, qui est symbole de spiritualité. Et ça c'est la Torah. C'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux que la Torah n'est pas seulement un mode d'emploi, n'est pas seulement un livre avec des instructions. C'est beaucoup plus que ça. C'est un outil. C'est un outil qui nous permet d'accomplir le but de ce monde. Le but de ce monde étant de transformer l'obscurité en lumière, la matérialité en spiritualité. Eh bien, la Torah nous aide à le faire par des choses concrètes. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Quand, par exemple, je veux mettre les téphilines, même si je n'ai pas compris ce qui se passe, on te dit, tu as pris un objet matériel, tu l'as spiritualisé. Donc, c'est gagné, c'est déjà gagné.
C'est pour ça qu'on doit faire.
Et c'est pour ça qu'on veut justement, cette année, on parlait beaucoup de l'importance de l'action. Parce qu'au niveau de l'action, tu l'as fait. Une fois que j'ai pris l'action, une fois que j'ai mis les téphilines, cet objet est devenu kadosh. Donc, j'ai atteint le but. Le but pour lequel on m'a envoyé, mission spéciale, c'était, tu vas me transformer la matière. Mission accomplie. J'ai transformé la matière. J'ai pris un objet. Je l'ai utilisé, parce qu'il y a une marloquette aussi, hein, ça. À partir de quand les téphilines prennent la kdusha ? Est-ce que c'est une fois qu'on les termine de les écrire ? Ou est-ce que c'est une fois qu'on les a portés au moins une fois ? C'est pas simple, ça.
C'est fin,
ça. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce qui donne la kdusha à l'objet ?
Ben ça, en fait, si tu prends une voiture, tu lui mets le moteur, tu lui mets l'essence, tant qu'elle n'a pas démarré, que tu n'as pas passé la première, c'est pas une voiture.
C'est pas une voiture.
Donc, tant que tu les as pas mis les tulines, c'est pas, t'as rien transformé.
Oui, mais quand t'as une voiture, que t'as pas encore utilisée, t'es imposable dessus.
Ça n'a rien à voir.
Bah oui, parce que c'est une voiture. Donc, qu'est-ce que fait HaKadosh Baruch Hu? HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. La Torah, ça veut dire qu'il nous a donné un outil pour transformer la matière en spiritualité, la spiritualité en matière. Je vais rajouter encore autre chose. Vous savez, dans le Hallel, qu'on va faire à Shavuot, qu'est-ce qu'on dit? Et qu'on va faire, quel Shavuot? Demain déjà. On va dire que Hashamayim Shamayim Lashem ve'aharetz Natan livnei Adam. Ça veut dire quoi? Hashamayim, le ciel, Shamayim Lashem, c'est le ciel pour Dieu. Ve'aharetz Natan livnei Adam, et la terre elle a donné aux hommes. Ça c'était avant le don de la Torah. Betzet Israël, mi mitra. D'accord, qu'est-ce qu'on raconte dans ce Betzet Israël? On raconte que lorsqu'on est sorti d'Égypte, avant le don de la Torah, Hashamaim, Shamaim, Lachem. Ce qui était le ciel, ce qui était spirituel, était Lachem pour Dieu. Ve'aharet, Natal ibn Adam. Et la terre, la matérialité, c'était pour les hommes. C'est ça, on ne pouvait pas mélanger les genres. On pouvait faire un pas vers l'autre. Mais je ne pouvais pas transformer le ciel en homme et l'homme en ciel. Le ciel, c'est le ciel. L'homme, c'est l'homme. On est d'accord? Quelle est la nouveauté du don de la Torah? C'est que dorénavant, on a enlevé cette différenciation. Dorénavant, l'homme peut être ciel et le ciel peut être humain. C'est un grand chidouche. C'est un chidouche extraordinaire. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il commence la Seret HaDibrot par... Comment il commence la Seret HaDibrot? Anochi. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. Le terme Anochi est bizarre, parce que... comment on dit en hébreu normalement je?
Ani.
Ani. D'où vient ce mot Anochi? Alors, le Midrash dit que Anochi, c'est la chaîne Mitzri. Anochi, c'est un mot en égyptien. Maintenant, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Dans les 10 commandements, si on cherche l'essence des 10 commandements, on les trouve dans les 2 premiers commandements. Dans les 10 commandements, il y a 620 lettres. Ok ? Qui correspondent aux 613 mitzvot, plus 7 mitzvot de Rabbanan. Maintenant, si on cherchait si on cherchait l'essence, parce que dans chaque chose, tu as une essence de la chose. Il y a l'essence. L'essence des 10 commandements se trouve où ? Se trouve dans les 2 premiers commandements. Premier commandement étant l'essence des mitzvot positives, je suis l'éternel ton Dieu. Deuxième commandement étant l'essence des mitzvot négatives. Si on devait maintenant chercher l'essence des premiers commandements, où on arriverait ? Au premier commandement. C'est lui qui est l'essence de tout. Parce que si tu acceptes que Hachem est ton Dieu, automatiquement tu arrives au reste. Si on cherche l'essence du premier commandement, où il se trouve ? Dans le premier mot des 10 commandements, qui est le mot Anochi. Alors je vous pose une question. Comment c'est possible que l'essence des 10 commandements, qui est le mot Anochi, peut être un mot en égyptien ? Je veux dire, c'est fort quand même. C'est fort. L'essence des 10 commandements se trouve dans un mot qui est en égyptien ? Mais ça, la réponse est là. C'est que ça la nouveauté dans la Torah. Qu'est-ce que Dieu y vient ? Mettez-vous dans la tête d'un juif qui sort d'Égypte. En quelle langue il parlait entre eux ?
En hébreu.
Il parle en hébreu.
C'est une des raisons
pour lesquelles ils sont sortis. Ils parlent en hébreu. Donc ici, maintenant, ils vont entendre pour la première fois de leur vie Dieu leur parler. Ils n'ont jamais entendu Dieu. Non, mais attendez, écoutez-moi. Ils n'ont jamais entendu.
250 ans d'esclavage.
Ils parlent en hébreu.
Oui, ils parlent en hébreu.
Vous avez l'arabe ? Comme les arabes, ils parlent en arabe ici.
L'Avdil.
L'Avdil.
C'est pas pour la même raison.
C'est pas pour la même raison, oui.
Non.
Ce que je veux dire, c'est possible. C'est possible. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ça fait plusieurs siècles qu'ils attendent, on leur annonce qu'un jour Dieu va leur parler. Dieu ne leur a jamais parlé pour l'instant, il a parlé à Moïse, il leur a jamais parlé. Donc ils attendent quel est le premier mot que Dieu va dire. Tu sais, c'est comme quelqu'un devant toi, tu vois, il n'a pas parlé encore. Tu attends qu'il sorte juste un son de sa bouche, juste pour voir d'où elle a l'air sa voix. Le premier mot est important. Le premier mot qu'ils vont entendre de Dieu. Mettez-vous à leur place. Anochi, c'est vraiment un égyptien. Moi je m'imagine la place d'Israël, ils vont dire oh. Lui aussi, du style, nous on croyait, on se casse la tête pour parler en hébreu, etc. On se casse les dents, tu vois. Et il vient maintenant, il nous parle en égyptien.
C'est pour ça que je suis invalide.
Mais c'est des trucs de fou, c'est pas possible. Ils ont dit, mais attends, c'est quoi cette histoire là? Même lui, c'est un égyptien, même lui. Mais ils nous poursuivent, ils sont partout. C'est quoi la réponse? Dieu voulait leur montrer que justement, si jusqu'à maintenant, dès qu'on vous disait le mot égyptien, égyptien, attention, chazvei shalom, c'est la touma, c'est l'impureté. Même parler égyptien, on n'a pas envie de parler. Si jusqu'à maintenant vous disiez l'Égyptien, ça représente le summum de la matérialité et donc on peut pas toucher, et bien maintenant on va vous dire que ce summum de la matérialité peut être le summum de la spiritualité. Voilà pourquoi le premier mot des 10 commandements c'est Anochi. C'est-à-dire n'ayez pas peur de voir comment, de façon ultime, le plus profond de la matérialité peut devenir le plus profond de la spiritualité. Et c'est pas une contradiction.
Il y a quelque chose que je comprends pas. Si tout le but de la Torah, c'était de transformer l'obscurité qui régnait dans le monde par la Torah qui est or, pourquoi après les affaires en Israël ont des persécutions dans tout le monde pour aller amener la Torah partout? Pourquoi les confiner dans un petit territoire, pays où ils sont entre?
Parce que normalement, si on avait fait les choses comme il faut, la Kedusha d'Eretz Israël aurait été tellement forte qu'elle aurait régné sur le monde entier. Qu'elle aurait changé le monde. Deux Eretz Israël, on aurait changé le monde.
Deux Eretz Israël, sans avoir besoin d'aller travailler.
Oui, sans besoin. Mais on n'a pas été méritant. Il restait pas grand chose. On sait très bien que il y avait quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y a 288 étincelles qui ont été perdues dans le monde. Comme ça on dit.
288.
C'est tout.
Ça dépend.
Et en Égypte, on a récupéré déjà si mes souvenirs sont bons, 210, juste en Égypte. C'est-à-dire que l'essentiel était en Égypte. On est déjà presque tout terminé, sans parler de ce qu'on a fait avant, à l'époque de Adam, Noir, etc. Donc le travail était presque terminé. Quoi ? Bah, c'est la bourse après. Le problème, c'est que chaque fois qu'on faute, ça repart. Donc il faut, ça repart, ça remonte, ça repart, ça remonte.
Il y a un type qui tient les comptes, non ?
Certainement, oui. Il est en haut.
Non, mais je suis pas un comptable à côté. T'inquiète.
C'est une chasse au trésor qu'on fait là. Tu connais la chasse au trésor ? Tu trouves un indice, hop, et entre-temps, t'en perds un autre. Hop, tu trouves celui-là, t'as perdu l'autre. Hop, t'as trouvé ça, c'est une chasse au trésor.
Ah, histoire de savoir où on en est dans la ligne d'arrivée.
Bah, on est très proche.
Ah,
on est très proche.
Mais dans la chaîne. 2000 ans qu'on est très proche, là, c'est
différent. Là, on est vraiment très proche.
Au pire, il reste 2000
ans. Ça fait 5760.
Pourquoi tu es au pire?
Dans les pires des cas, au pire des.
Excuse-moi, lorsque tu ouvres une affaire, est-ce que tu imagines le pire des scénarios tout de suite?
Oui, toujours pour être bien surpris.
Faut pas imaginer. Tu peux peut-être imaginer que peut-être il arrivera, mais tu ne veux pas t'y attendre.
Non,
tu ne veux pas qu'il arrive.
Je veux pas. Voilà. Je veux tout pour pas y attendre.
Donc tu sais qu'il peut arriver, mais tu l'écartes.
Je l'écarte pas. Je fais avec.
Mais t'es pas intéressé par cette hypothèse.
Pas non, intéressé, mais voilà. Il l'a envisagé. En considération, ça m'évite de la subir.
D'y arriver, j'ai compris. Bon, très bien. Ok. Si c'est ta façon, il y a pas de problème. Au pire, on peut aller jusqu'à l'an 6000, il n'y a pas de problème.
Au pire.
Donc fais les calculs, donc ton arrière-petit-fils.
Si Dieu veut.
Voilà, si Dieu veut.
Si Dieu veut, voilà, lui il est avec
moi. Et toi, donc tu l'as jeté ce matin, tu le verras.
Voilà, donc tu dis à tes enfants, écoutez, entre temps, on va rester entre juifs, comme ça, voilà. Marie-Vo avec des juifs, et le prochain, et le prochain, et le prochain, et le prochain. Comme ça, on est sûr qu'il y aura un Ben David qui va magir. Et il le saluera de ma part. Et moi j'ai envie de voir moi, Machiar, pas mon arrière-petit-fils.
Ah, s'il me le voit, c'est comme si je le voyais. Non, c'est mes yeux.
Non, je veux voir moi, prends mon arrière-petit-fils.
Pourquoi donc ?
Non, mais ça c'est le côté impatience.
Non. C'est le côté, bien sûr, c'est le côté Emouna.
Oui, Mitzvah, Machiar.
Non,
bien sûr.
Non, mythique là.
Ah ouais ?
On veut Machiar tout de suite. Dans le 11e chapitre.
Alors, reprenons maintenant ce qu'on a expliqué. Qu'est-ce que Dieu nous donne ? On dit que Dieu nous a donné la Torah. À quoi sert la Torah ? La Torah nous sert à nous aider à transformer l'obscurité de ce monde en lumière. Transformer la matière en spiritualité et vice-versa. Parce que, par exemple, la mitzvah des téfilines, c'est une matérialisation du spirituel. C'est-à-dire prendre un concept et dire maintenant tu vas mettre des lanières de cuir, on a matérialisé un concept spirituel. Très bien. Maintenant, comment Dieu il a fait pour faire en sorte qu'avec la Torah, on arrive à transformer la matière ? On peut pas. Comment la Torah peut être plus forte que la matière que Dieu lui-même a créée ? La réponse, c'est que dans la Torah, Dieu a mis son essence. Son essence. Atzmuto ou Mahuto. Comme dit le Zohar, Oraita vekushavrihu kulachai. Que Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Kulachai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous a donné un outil qui est Dieu. C'est-à-dire que lorsque je fais une mitzvah, je suis Dieu. Donc ça veut dire qu'il m'a donné une capacité divine. Vous me suivez ?
C'est la Torah dans la bouche de Mitzvah.
Oui, oui, évidemment. Mais ça veut dire qu'il m'a donné une capacité divine.
C'est-à-dire que non, ce que je veux dire par là, c'est que...
C'est si qui a été utilisé par un goy, il n'a pas cette force.
Si un goy ouvre la Bible, il n'a
oui,
pas la même
exactement.
Force.
Exactement. Oui, bien sûr, il faut un déclencheur. Il faut un déclencheur, il faut un mélange de la Torah avec Israël.
C'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut réagir
oui,
qu'avec
un
juif. Ah, ça, c'est cool.
Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu te donne un outil dans lequel il te dit tu es comme moi. De la même façon que moi quand j'ai créé le monde. C'est-à-dire comme ça, je vais aller un peu plus loin. Excusez-moi, je pousse un peu aujourd'hui, mais je pense que c'est important. Lorsque Dieu il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la lumière, la spiritualité, et il en a fait un monde. Donc ça veut dire qu'il a transformé de la spiritualité en matière. Et moi, qu'est-ce que je fais avec la mitzvah ? Je vais dans le sens inverse de Dieu. Ça veut dire que je prends la matière et je la transforme en spiritualité. C'est-à-dire que je vais dans le sens inverse d'Akadosh Baruch Hu. Pour aller dans le sens inverse d'Akadosh Baruch Hu, je dois être au moins aussi fort que lui. Parce que si je suis allé dans une direction, pour aller dans l'autre sens, je dois être au moins, même si ce n'est plus fort que lui. Mm-hmm. Comment je suis plus fort que lui ? Attends, avec l'outil divin qu'il m'a donné, la Torah.
C'est
ça.
Ces mots, c'est lui.
Donc vous comprenez maintenant ce qui se passe quand on fait une mitzvah ? Donc croyez, quand on est la Torah, c'est une mitzvah, bon, ben, on aimait les tefillines, etc. Pas du tout. On commence à comprendre que quand on fait une mitzvah, on est en train de transformer le monde que Dieu lui-même a créé. Et que Dieu crée maintenant. C'est-à-dire qu'en parallèle, Dieu te donne une force pour créer le monde, et en même temps, Dieu te donne une autre force pour transformer ce monde en spiritualité. On lui renvoie l'ascenseur.
Quand tu nous le dis là maintenant, ça crée un choc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller. Ah oui. Chaque fois, on est obligé d'y aller. Dans les 613 épisodes, on est... comment on fait tous les autres jours de l'année où on n'est pas à 5 secondes du Kolot Tanya? Comment on fait? C'est ça l'histoire. De quoi faire?
Et il faut se rappeler de ça. Bon, non, quand tu veux dire comment on fait pour être inspiré, pour être
tous les jours étudier. Pour être branché comme on est branché là maintenant.
Il faut étudier, il faut réviser. C'est vrai. Mais en tout cas, il faut réaliser ça. Il faut se le répéter jusqu'à que ça rentre, jusqu'à qu'on comprenne. On comprenne l'impact qu'on a quand on fait la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que quand, par exemple, des fois, je parle avec des gens, ils disent, ouais, la Torah, c'est contraignant, c'est casse-pied. Ils voient ça comme une contrainte. Non, mais c'est vrai. Ils voient ça comme une contrainte.
C'est parce qu'on n'est pas conscient, ça.
Oui, parce que pour eux, voilà, bon, c'est une contrainte, c'est casse-pied. Laisse-moi tranquille, je vais aller sur Instagram pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'une casse-pied, maintenant, cette histoire?
Non, parce qu'ils ne savent pas.
Hein, parce qu'ils savent pas.
Voilà. Quand t'as pas goûté, tu sais pas que c'est bon.
Parce qu'ils savent pas. Et nous aussi, on sait pas. Et là, quand on t'explique des choses comme ça, des choses puissantes, là, on sent qu'on rentre dans les secrets du monde, là. On commence. C'est-à-dire comme ça. Qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il crée le monde. Lorsqu'il crée le monde, il prend une lumière spirituelle.
Il fait du matériel.
Il en fait du matériel.
Et il le fait tous les jours.
Il le fait chaque seconde, chaque instant. Qu'est-ce que je fais? Chaque seconde, chaque instant. Qu'est-ce que je fais, moi, quand je fais une mitzvah? Je prends cette matière que Dieu a créée et je la transforme en spirituel. Ça veut dire que je vais à contre-courant de Dieu.
Qui te dit que je la transforme en spirituel?
Parce que c'est ce qu'on te dit, c'est le chidouche de la Torah. Quand je veux mettre des tefillines, je veux prendre une matière que les tefillines est autre chose. Hein. Je vais prendre un chips que je vais manger.
Ouais.
Je prends ce chips. Je vais à l'inverse du sens d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend une lumière et il en fait un chips. Moi, je prends un chips et j'en fais une bénédiction. Donc, je vais à l'inverse du sens d'Akadosh Baruch Hu. Je prends un chips, j'en fais une lumière. Donc, je vais à l'inverse. Donc, pour aller à l'inverse du sens de Dieu, je dois être au moins aussi fort que lui. Alors, je te donne un exemple. Imagine-toi, par exemple, que je pousse la table.
Je pense que tu disais, voilà. Moi, j'avais compris que lorsqu'on fait une bracha sur un chips, on permet à la population chips de vivre.
Non. On élève le chips vers Dieu. Non, et ce chips devient le représentant de tous les chips flodeurs du monde. Alors.
Pas que le monde tient sur la Torah.
Je sais pas si c'est flodeur.
Bon, pas voilà. Que le monde tient sur l'étude de la Torah.
Bien sûr.
C'est-à-dire que nous, en étudiant la Torah, en faisant l'exode, on fait tenir le monde qui est matériel.
Évidemment.
C'est pas que du spirituel.
Oui, mais, ce que tu oublies, c'est qu'à part la Torah qui est pour nous, c'est-à-dire qui fait tenir le monde.
Le monde sur le monde.
Quand on fait une mitzvah, on élève cette matière vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le chidouche. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il nous a créé dans une planète et qu'on est là, on doit essayer de faire tenir, on est les piles du monde. On n'est pas seulement les piles du monde. C'est beaucoup plus que ça. En plus d'être les piles du monde, on a aussi, on envoie des fumées en haut.
Mais c'est pas sympa. On te donne un cadeau, tu le renvoies.
Non,
ça c'est le cadeau. C'est ça le cadeau.
Mais on attend,
non.
On attend justement.
Le cadeau, c'est qu'on t'a donné un outil divin. On t'a donné un outil divin.
Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a dit le spirituel, j'en veux pas, je veux du matériel. Il transforme tous les jours du spirituel en matériel.
Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça?
Parce que c'est
non, il fait ça parce que son but, son intérêt, c'est qu'il a envie de voir comment tu vas transformer ce matériel qu'il a créé en spirituel.
Tu te donnes, comment tu le renvoies?
En fait,
ça c'est son but.
Il fait une expérience sur nous.
Il a envie de voir comment tu vas transformer la matière en spirituel.
C'est quand même un peu compliqué de. Je t'envoie un cadeau pour que je vois.
Mais exactement. Mais c'est pour ça. On le voit dans la Gemara, ça. Quand la Gemara te dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et que depuis la création du monde, tout le monde savait qu'on devait recevoir la Torah. C'est-à-dire, tout le monde savait, toute la nature savait, la mémoire de la nature savait, que pourquoi Dieu a créé tout ça, pourquoi Dieu n'arrête pas de descendre, pour qu'un jour il va donner un outil à des gens qui seront capables de remonter tout ça. Tout le monde le savait, ça. Que la raison ultime, la finalité de la raison pour laquelle ils sont créés, c'est pas le fait de descendre. C'est le fait de transformer ce qui est en bas en ce qui est en haut. Sans monter, il n'y a pas besoin de monter. Comment il n'y a pas besoin de monter, ça peut rester en bas, mais en bas, le transformer comme si qu'il était en haut. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est un ridouche. Et ça, c'est l'enjeu du don de la Torah. Maintenant, on comprend pourquoi on est tellement content le don de la Torah. Comme a dit mon père, le Rav, il a dit le Shabbat, il a dit que Rav Yosef, il a dit, vous avez un grand simra le jour du Shavuot. Grand simra. Pourquoi? Grande fête. Il a dit parce que si ce n'était pas le jour du Shavuot, que Dieu nous a donné la Torah, combien de Yosef il y a dans le marché? Pourquoi il y a des gens qui sont là, que pour eux, c'est quoi la vie? Ben, on attend que ça passe. C'est vrai. C'est quoi la vie? Bon, on attend que ça passe, on tient bon, on laisse tenir comme moi, ben un jour on crève. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et bon, on laissera des enfants, on laissera peut-être un peu d'argent, un patrimoine, si, peut-être. Ça, c'est la vie. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais là? Et ça, c'est ce que le Youssef du marché pense. Le Youssef du marché, il pense ça, il pense que bon, je suis là pour tenir. Oui.
C'est un problème.
Mais c'est un problème. Et c'est on te dit.
Quoi?
L'écrasante majorité des gens pensent ça. Ils sont là. Alors qu'est-ce que je vais vous dire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, ceux qui se suicident sont courageux. parce que à un moment, parce que tout le monde comprend à un moment que ça sert à rien, mais il y en a qui disent, bah si ça sert à rien, bah moi je vais passer à l'acte suivant.
Ouais.
Mais c'est, bah oui, ils sont courageux ceux-là. Enfin, grand courage. Par contre, quand tu étudies la Torah, tu comprends que t'es pas là pour rien, t'es pas là pour attendre que ça passe. J'encourage pas le suicide, Razé Shalom, juste j'explique. J'explique que quelqu'un normal, pour qui la vie ne sert à rien, pourquoi tu veux qu'il reste là? Il faut se donner une raison.
C'est pas insensé.
D'accord? Quand il est là, il va se dire, non mais reste, 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 pourquoi je reste? Pourquoi je reste? Faut lui donner une raison. Pourquoi il reste? Qu'est-ce qu'il a à faire ici? S'il sent qu'il sert à rien, s'il sent en plus que plus ça va, plus ça sent pire, pourquoi tu veux qu'il reste? Donc ce que je vais expliquer par là, c'est qu'au contraire, Kadosh Baruch Hu, il nous donne un outil extraordinaire qui nous permet de rentrer dans ses coulisses, qui nous permet d'être comme lui. C'est extraordinaire l'outil que Kadosh Baruch Hu nous donne. Et juste pour ça, on devrait remercier Kadosh Baruch Hu comme un Tav Echartan Mikolamim, que il nous a choisi à nous, il aurait pu choisir d'autres personnes. Il nous a choisi à nous pour être ses ambassadeurs, et pour être ceux qui sont comme lui, qui vont être les responsables de transformer la matière du monde en spiritualité. C'est extraordinaire. C'est pour ça que à Kadosh Baruch Hu, on va lire un peu dans les mots, il nous a donné la Torah. Shenikret Oz Vekoach, qui est appelée puissance et force. Je vais vous donner un exemple. On va pas faire go aujourd'hui, hein, juste 2-3 lignes, hein, parce que Baruch Hashem, le don de la Torah, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Par exemple, on va étudier, par exemple, un din dans la Gemara. Amachalif Shor Bechamor. Celui qui échange un bœuf avec un âne. Bon, c'est un cas, on ne peut plus matériel. On ne peut plus matériel, c'est un cas vraiment concret, quoi. Concret, qu'est-ce que tu dis? C'est un cas concret. Très bien. C'est un cas parfaitement concret. Et qu'est-ce qu'on dit? Que ce qu'on est en train d'étudier, c'est de la Torah. C'est-à-dire quoi, c'est de la Torah? C'est-à-dire que Dieu est en train de penser à une vache maintenant? Dieu est en train de penser à un âne?
C'est un concept.
D'accord? Ah. En vérité, c'est un concept. Ça, le Zohar explique. Il dit que chaque chose qu'on voit matériellement dans la Gemara, c'est un concept. C'est-à-dire qu'un bœuf, c'est un concept. Un âne, c'est un concept. C'est quoi Machalif Shor Bechama, par exemple? C'est expliqué dans la Chassidut que le Shor, le bœuf, représente la puissance, la force. Le bœuf, ça va toujours représenter dans la culture du monde celui qui est là, qui a une grande force, qu'on a d'ailleurs beaucoup de mal à canaliser. D'un autre côté, l'âne, c'est pas un animal qui a beaucoup de puissance, je veux dire, c'est pas un animal qui est là avec beaucoup. Mais l'âne, c'est un animal qui est plus calme et qu'on arrive à maîtriser son énergie et que du coup, il peut être un très bon outil pour l'homme. Alors qu'est-ce qui se passe? Un machalif shor bechamor. Celui qui veut échanger le bœuf avec l'âne. Ça veut dire que, comment on comprend ça dans les sphères spirituelles? Celui qui va échanger la chaleur contre la froideur. La chaleur non maîtrisée, non canalisée, à une froideur, etc. Ça c'est juste le cas. Après, comment on va comprendre, etc. C'est un exemple. Un autre exemple aussi, par exemple, dans la Gemara, on va te parler d'un cas de, un homme qui est mekadesh une femme. Un homme qui se marie avec une femme. Non, c'est un pshat, ça. Un homme qui se marie avec une femme, c'est tout. Comme tous les goyim se marient. Non.
Se fiance.
Bon, tout le monde fait ça. Non. Comment un homme peut être mekadesh une femme? On te dit qu'un homme peut être mekadesh une femme avec trois choses. Kesef, bishtar ou bevia. Kesef, c'est l'argent. Shtar, c'est le contrat. Et bia, c'est la relation. Trois choses. Alors, une fois, l'Edmond Razaken, il a expliqué, il a dit, comment on étudie cette Mishnah dans la Yeshiva du ciel? C'est une Mishnah. Comment on étudie cette Mishnah dans la Yeshiva du ciel? Il a dit, c'est très simple. C'est qui l'homme? L'homme, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui la femme? La femme, c'est Israël. Comment l'homme, il est Mekadesh, la femme? Comment Akadosh Baruch Hu, il est Mekadesh et sanctifie l'homme Israël? Il a trois choses. Mais Kesef. Kesef, en hébreu, ça veut dire l'amour. Ça veut dire le mot argent, mais ça veut dire aussi l'amour. Pourquoi l'argent est appelé comme ça? Parce que Nirsof, on soupire, on est attiré vers ça. Donc comment Dieu nous sanctifie? Par trois choses. Par l'amour, parce qu'il nous aime et nous on l'aime. Bishtar, par le contrat. Le contrat, c'est la Torah. D'accord? Bevia, les relations, c'est les mitzvot qu'on fait. Quand on fait des mitzvot avec le Kadosh Baruch Hu, c'est comme si on a des relations avec le Kadosh Baruch Hu. Pour expliquer comment dans la Yeshiva du ciel, on utilise cette même Gemara que l'on étudie. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on en a fait? On a pris un concept spirituel qui est très puissant, et on en a fait une histoire de vache.
Et la suite de Mishnah.
Hein?
La suite de Mishnah, comment on la divorce, mais mita tabal, c'est quoi?
Ah, bah, il y a, c'est expliqué aussi.
Mita tabal.
Ah, oui, bien sûr.
La mort de Dieu.
Non, pas la mort de Dieu.
Non.
C'est encore un concept. Ça veut dire que Kadosh sépare la personne. Non, il explique tout.
Ah, ouais,
oui, bien sûr. Tout s'explique. Mamache.
Tu veux te donner l'anglais la semaine prochaine?
Ouais. J'avoue, alors, si vous permettez, j'ai une fois Rabbi Bad Ben-Sebin qui est un il avait fait un super chat sur Rabbi Yosef qui a des super. En fait, Rabbi Yosef, il se parle à lui-même. Il dit sans la Torah, hein, il y aurait eu beaucoup de dioses. Pourquoi ? Parce qu'un matin tu te lèves, tu es angoissé. Un matin tu te lèves, tu fais la tête. Un matin tu te lèves, tu es content. Tu as plusieurs aspects de toi. Et la Torah fait au fait que tu es toujours le même, tu es toujours content. Parce que tu as la Torah.
Ah, d'accord. Vous pirouchez. Vous pirouchez, ouais. On transforme un peu de matière, là.
C'est ce qu'il a dit, Groucho Marx.
Hein ?
Groucho Marx, il disait, aux États-Unis, deux personnes sur une sont schizophrènes.
Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah ? La Torah est comparée à la puissance. Comme on dit, Adonai oz lamo iten, Adonai yevarech et amo vashalom. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné oz. C'est quoi oz? La puissance. À quoi sert la Torah? La Torah nous sert à amener la puissance. Quelle puissance? La puissance de transformer la matérialité de ce monde en spiritualité. Et nous permet aussi de faire le shalom. Le shalom entre qui et qui? Le shalom entre la matérialité et la spiritualité. Il faut bien comprendre que c'est deux mondes contradictoires, antinomiques, qui ne peuvent pas supporter l'un l'autre. Prenez dans la même pièce deux personnes, un qui est très matérialiste, l'autre qui est très spirituel. Mettez-les dans la même pièce et mettez-les à parler ensemble. Ils ne peuvent pas parler ensemble. C'est la guerre. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu avec la Torah? Il nous donne un outil qui fait le shalom entre les deux.
Un pont, tu veux dire.
C'est le shalom. Le shalom entre les deux. Le vrai shalom. Pas le shalom que un il s'écrase et l'autre il parle. Et j'en ai pensé, c'est ça le shalom, tu vois. Il dit, bon, toi tu te tais, l'autre tu vas parler. C'est pas ça le shalom. Le vrai shalom, c'est que les deux ils parlent et les deux ils sont d'accord. Comme je mets les tefilines. Quand je mets les tefilines, on va demander au Yitzhar, on va dire, est-ce que tu confirmes que c'est une peau de cuir? Oui, c'est une peau de cuir. On demande au Yitzhar Tov, au ciel, est-ce que vous confirmez qu'il y a une kedusha? Oui, il y a une kedusha, mais tout le monde est content. On a fait le shalom entre eux, en haut et en bas. D'accord? C'est extraordinaire. Alors on continue. Shinikret Oz Vekoach. Pourquoi la Torah est appelée une puissance? Comme les Chachamim disent. Qu'est-ce que. Ouh là là, j'ai pas vu l'heure passer là. Bon. Et quand je lis encore deux lignes, on va s'arrêter. Combien de lignes on a lu du coup? Trois lignes. Kumamar, Rabotin le Zichron Alivracha. Shakadosh Baruch, ou Notan Korb, Tzadikim le Kabel Tzraram, la Tidlavo. Chez Loïd Bet, ou Mtsiut Mamash. Lorsque Akadosh Baruch, il va nous amener Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Kadosh Baruch Hu veut nous amener Mashiach, à ce moment-là, il y aura une lumière tellement forte qu'on sera ébloui par cette lumière. Et qu'on va brûler instantanément. Qu'est-ce que, et d'ailleurs, les Réchaïm ont brûlé de cette lumière. Qu'est-ce qui va nous permettre à nous de ne pas brûler? C'est quoi? C'est la Torah qu'on a étudiée. Parce que autant la Torah nous permet de transformer la spiritualité, la matière en spiritualité, autant la Torah nous permet de rester matériel avec une grande spiritualité. Vous me suivez? C'est-à-dire que quand Mashiach arrivera, il y aura une très grande spiritualité, mais comme on a la Torah, avec la Torah, tu peux rester matériel tout en ayant la spiritualité.
On est permis.
Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, je vais s'arrêter avec ça pour aujourd'hui. Dieu nous a donné cet outil extraordinaire, qui est un outil extraordinaire. Et normalement, ça devait marcher. Mais malheureusement, notre corps n'était pas prêt pour ça. Notre corps n'était pas prêt. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne savais pas qu'il était pas prêt.
Bien sûr qu'il savait à Kadosh Baruch Hu. Mais il nous a donné, comme ça on le développe, ça fait 3000 ans qu'on le développe. Pourquoi il nous l'a donné? Il nous l'a donné. Notre corps n'était pas prêt. Donc comme notre corps n'était pas prêt, dès qu'il a envoyé le premier commandement, grand dévoilement divin, qu'est-ce qui s'est passé avec notre corps? Il est parti. Pourquoi? Parce que notre corps, la matière du monde, c'est vrai qu'on avait un outil pour transformer la matière en spiritualité. Mais la matière du monde n'était pas encore prête à être transformée. Elle n'arrivait pas. C'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Premier commandement, on est parti. Il nous a ramené. Deuxième commandement, on est parti. Le ministre a donné à Moshe, ils ont dit, écoute, arrête-toi là. Tu dis à Moshe, tu dis à Dieu, il continue parce que nous on ne tient pas. Dieu, il a continué. Qu'est-ce qui s'est passé 40 jours après? Le veau d'or. Pourquoi il y avait le veau d'or? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Leur corps n'était pas prêt. Alors David, il pose la question, il dit, dans ce cas-là, pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu a lancé le projet. Est-ce que quand on lance un projet, il marche tout de suite? Son but, c'était pas qu'il marche tout de suite. Son but, c'est de lancer le projet, qu'on comprenne où on peut atteindre, quel niveau on peut atteindre. Et après, une fois que t'as atteint ce niveau-là, alors après, automatiquement, on va apprendre de nos erreurs. Même si on se casse la figure, on va apprendre où on peut atteindre.
Tu veux dire que le veau d'or, il était programmé?
C'est comme un enfant. Je vois un enfant, il voit un adulte marcher. Donc il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit marcher. Un bébé, il sait qu'il doit marcher. Oui. Non, il va essayer. Il va se casser la figure. C'est pas grave, parce que sa figure. Mais il sait ce qu'il doit, où, vers où il doit aller. D'accord? Je vous donne encore un autre. On va terminer avec un dernier Dvar Torah. C'est la raison pour laquelle on dit aussi que, au don de la Torah, la voix d'Akadosh Baruch Hu n'avait pas d'écho. la voix d'Akadosh Baruch Hu n'avait pas d'écho. Ce qui est un miracle, évidemment. A priori. Puisque, normalement, vous êtes dans un endroit tellement grand comme le désert. Vous avez une grande voix, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, il y a un écho. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit clairement, dans le Midrash, c'est écrit clairement dans la Gemara aussi, que la voix du don de la Torah n'avait pas d'écho. Alors, Rabbi pose une question, il dit, mais pourquoi elle n'avait pas d'écho? Pourquoi Dieu a fait ce miracle? C'est un miracle qui a l'air inutile. Franchement, ça nous aurait changé quelque chose si le don de la Torah avait un écho ou pas d'écho. Et il y a plusieurs réponses. Il y en a qui veulent dire qu'il n'y avait pas d'écho parce que s'il y avait un écho, on aurait pu penser qu'il y a un autre Dieu. Bon. C'est pas suffisant. Pourquoi Dieu a besoin de faire ce miracle? Tout le monde sait qu'il y a un écho. Alors, Rabbi dit comme ça, un pirouche extraordinaire. Il dit, pourquoi il y a un écho? Comment ça se fait que quand on a une grande voix, il y a un écho? D'où vient l'écho? C'est un phénomène physique. D'où vient ce phénomène?
C'est une réflexion.
C'est une réflexion. Ça veut dire qu'on envoie un son. Il y a une réflexion du son. Et la réflexion, on sait qu'il y a la réflexion de la lumière. Il y a aussi la réflexion du son. Le son qui va très loin d'ailleurs. Donc, le son, il doit se cogner contre, il doit se heurter à un élément qui ne l'absorbe pas. D'accord? Et il le rejette. Donc, puisqu'il le rejette, ça peut être une montagne, ça peut être un mur, etc. Donc, du coup, ça fait un écho. Mais si vous avez un mur qui absorbe le son, par exemple des caisses, des cartons d'œufs, d'accord, cartons d'œufs. Qu'est-ce qui se passe avec ce moment-là? Eh ben, si tu as un élément qui absorbe le son, il n'y a pas d'écho. Pourquoi dans la Torah il n'y avait pas d'écho? C'est pas un miracle. Je rabbi dit c'est pas un miracle. Pourquoi c'est pas un miracle? Non, c'est pas un miracle. Il dit le monde à ce moment-là était à un tel niveau pendant quelques instants, ça a duré quelques instants, que le monde entier était réceptacle à la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait aucun élément dans la matière qui pouvait ne pas recevoir Dieu. Ça veut dire que dès que la voix de Dieu arrivait quelque part, elle rentrait dans la chose. Elle bloquait pas. La bracha était absorbée par l'objet. Donc il n'y avait pas d'écho. Donc si on te raconte qu'il n'y a pas d'écho, c'est pas juste pour te dire, ah, il y avait un miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est pas un miracle. C'est pour te montrer à quel point au don de la Torah, on a eu un prototype de ce qui pouvait exister plus tard. Alors, vous savez, c'est comme dans tout quand on fait un prototype. Ben, le prototype, c'est pas la production de masse. Production de masse, après, ça prend du temps. Entre le prototype et la production de masse, il faut des fois des années, des années, des années. Là, en l'occurrence, 3300 ans. Bon, on n'en est pas encore sur ce domaine. Bientôt, si Dieu veut. Pourquoi? C'est très simple. Parce que Dieu, il nous a montré le prototype. Il dit, voilà où vous pouvez arriver. Vous pouvez arriver à un niveau dans lequel vous êtes tous capables de transformer la matière en spiritualité au point que aucun objet dans le monde peut former un obstacle devant un Kadosh Baruch Hu. On l'a vu. On a compris qu'on peut arriver, mais on n'était pas prêt. Donc c'est pour ça que notre corps, il a lâché tout de suite. Crise cardiaque, on a lâché, on n'a pas tenu. On est mort, à ce moment-là. On a survécu. Encore une fois, on est mort. Bon, ils seraient dans la mochée, ils ont dit, c'est bon, on a compris où on peut atteindre, on a compris ce qu'on peut atteindre, mais on n'est pas prêt pour ça, notre corps ne tue pas. Ok? Alors dans ce cas-là, Dieu dit, très bien. Lui, Moshe, il pouvait. Il était à cet état-là, donc il a continué. Et nous, on sait maintenant où on doit arriver. D'accord? Donc en tout cas, on va dire les Chaïm, ce qu'on va se souhaiter, peut-être attaché pour Shavuot, c'est que, on apprécie la chance qu'on a d'avoir la Torah. C'est pas Stam, on est venu, on va renouveler. Prenez quelqu'un qui vient à la synagogue Shavuot. Pourquoi tu es venu? Tu fais quoi là? Tu es venu pour faire quoi? À quoi ça sert? Ouais, mais tu comprends, on a reçu la Torah. Mais alors, t'as reçu la Torah, ça change quoi? T'as reçu un contrat, tu vas renouveler chaque année que t'as reçu le contrat? En plus, c'est un contrat de contrainte. T'es fou ou quoi? Vous avez vu, quelqu'un il a signé un contrat une fois et chaque année il va dire, ah ben ce jour-là, j'ai signé le contrat. Hein? Exactement. Renouvellement du contrat. Waouh, bravo. Non, parce que le matin de Torah, c'est le mariage avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas seulement le mariage avec Akadosh Baruch Hu. C'est un moment dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a rendu comme lui, nous a donné un outil, nous a choisi. Un outil extraordinaire qui permet d'être comme lui, de transformer la matière en spiritualité. Donc, on va dire les chayim, que Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on arrive à réaliser cette puissance. Comment dans chaque chose, notre but est de transformer la matière en spiritualité. Et là, plus on en fera, et plus Bezrat Hashem, on arrivera près au don de la Torah. Et la finalité du don de la Torah, c'est quoi? C'est Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach sera une concrétisation du don de la Torah. Jusqu'à maintenant, j'ai pas envie de dire qu'on est en entraînement, mais jusqu'à maintenant, on essaye de le faire, mais on n'a pas réussi encore. On a réussi partiellement, on n'a pas encore réussi à 100%. Dès qu'on arrivera à Mashiach, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on a terminé, on a atteint le but qui avait été déclaré, qui avait été déclaré au don de la Torah. Bezrat Hashem, très très rapidement, now, Chaim. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus quand on fera chapitre 36. Hein. Mais j'ai pensé que c'était bien d'en parler maintenant.
Quelle différence
dans la Torah
entre la voix de Dieu, qui n'a pas d'obstacle, entre guillemets, et le son du chauffard? Qui ont aussi que spirituel, c'est le son de la distance.
Le son du chauffard aussi n'avait pas d'écho?
Si. On parle de quoi la Vora dans la. Il doit avoir un écho. Non, je parle du chauffard du Rosh Hashanah. Quand nous, on s'en
D'accord.
Pourquoi ce son spirituel qui sort de ce chauffard, où on fait la mitzvah.
Parce qu'on n'est pas au niveau du nom de la Torah.
Il n'est pas intégré. Non, mais c'est Dieu qui s'accomplit.
On n'est pas à ce niveau-là encore. On n'est pas à ce niveau-là qu'aucun objet.
Parce que la matière est sale.
Oui, la matière est sale. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que je peux dire que la table ne fend pas un frein à la lumière d'un Kadosh Baruch Hu? Je ne sais pas. Peut-être non. On n'est pas à ce niveau-là encore.
Et qui c'est qui avait purifié le monde à la Torah?
C'est, qui a purifié le monde? C'est nous, par le travail des Midot.
À Matan Torah?
Avant Matan Torah.
On avait réussi en 40 ouais. jours à faire ce qu'on n'a pas fait, nous, en 3000 ans?
49.
En 49 jours, oui. Ce qu'on n'a pas fait.
Mais c'est pas grave. Son 49 jours, à Kadosh Baruch Hu, il nous a fait une opération express dans laquelle on a oublié notre corps. On se préoccupait que de notre Neshama. Mais ça n'a pas marché. C'est pas grave, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, la preuve, c'est clairement, ça n'a pas marché. Ouais. Parce que concrètement, on a fauté juste après. On n'a pas tenu. C'est pas grave. C'était important pour Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que notre corps ait passé au moins une fois par ça. Très important, ça. Et la Neshama de chacun de nous est passée au moins une fois par ce phénomène. On parle aujourd'hui de la mémoire du corps. Le corps a une mémoire de ce qu'il a déjà fait. Du fait même que mon corps, ma Neshama, est déjà passé une fois par ce phénomène de transformer la matière en spiritualité, ça la facilite à faire toutes les mitzvot, parce qu'il est déjà passé par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors après, on peut, pour Matan Torah, on peut parler des heures et des heures.
Le fait qu'il n'y ait pas d'écho et que les Neshamot, elles sont montées, ça a un rapport aussi ou pas? Parce que dans le sens, vu qu'il n'y a pas d'écho, ça a pénétré la matière, mais pas une matière en soi.
Le monde était prêt, la matière du monde était prête. Ça veut dire ça veut dire que les montagnes, la terre étaient prêtes. Mais les hommes n'étaient pas prêts. Les hommes n'étaient pas prêts.
Non mais le fait que c'est logique presque. Enfin, moi je vois une logique là-dedans. Le fait que l'écho, enfin qu'il n'y en ait pas.
Oui.
Le fait qu'il n'y en ait pas. Donc notre corps a été pénétré entièrement. Il est pas, c'est pas ressorti.
Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, à un moment, il était partout dans, il était vrai, enfin il est tout le temps partout.
Oui, mais ça a duré une fraction de seconde. Oui. C'est-à-dire on a juste eu le temps d'entendre Akadosh Baruch Hu, enfin une fraction, peut-être, uh-huh. peut-être quelques secondes. Mais... ça pendant quelques secondes on était à ce niveau-là. Notre corps a tenu bon, mais après il a lâché. C'est trop fort pour lui. Tu ne suivais pas. Mais il l'a vécu quelques secondes. Donc, le fait d'avoir vécu une fois, ça veut dire qu'on a déjà vécu cette symbiose entre la Neshama et le gouffre. Entre la spirituelle et la matière. On a déjà vécu une fois ça. Ça change.
On a été traversé.
Oui. Complètement.
C'est pas qu'on a absorbé. On a été
transformé. Transformé. T'es transformé. C'est le mot de ce que je veux dire.
Il a raison. On n'a pas été. On
a été transformé,
on l'a pas absorbé. C'est passé en nous, mais
c'est
pas nous.
On
l'a pas gardé.
On a été
transformé,
carrément.
Oui,
forcément, oui.
Ça a eu un impact.
Bien sûr. Ouais.
Juste un passage.
Voilà. Voilà. Bon. Voilà, quand on se prépare dans la Torah comme il faut.